France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité philosophe a choisi d'évoquer un classique pour qui s'intéresse à la maladie, aux normes et à la santé. Un classique que l'on connaît peut-être pour cette citation « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». Mais qui échappe dans ce qu'il dit de la vie tout court, ce classique, c'est « Le normal et le pathologique » de Georges Canguilhem.
Nous voulons parler du vivant. Et nous avons à nous expliquer sur le fait que nous parlons du vivant et non pas de la vie. Pour quelle raison? La vie, c'est d'abord un concept qu'on peut dire vulgaire. La vie parisienne, la vie est belle, rien n'est plus précieux que la vie. Voilà trois expressions dans lesquelles la vie a perdu, sauf dans la dernière, presque tout son sens pour devenir simplement une espèce de métaphore. En outre, la vie, c'est un concept que la science n'a cessé constamment de refuser. Je ne dis pas qu'elle a réussi à l'abolir, à le réduire, mais elle a toujours cherché à rendre compte de la vie sans tenir compte de la vie. Et pourtant, personne ne songerait à dire « le vivant n'existe pas » ou « les vivants n'existent pas ».
Bonjour Thierry Hoquet.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie des sciences à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Darwin, la biologie, les sexes. De vous est paru il y a quelques mois « Histoire décoloniale de la philosophie française » aux éditions PUF. Pourquoi avoir choisi Georges Canguilhem et notamment ce monument, le normal et le pathologique?
Merci de votre accueil et de ce son de Georges Canguilhem qui nous ouvre à la question...
Qui date de 1967, je le précise, un entretien avec François Dagonier.
Deux excellentes introductions à la question de la vie et des vivants. Je crois que ce livre Le normal et le pathologique, tout le monde le connaît un petit peu, au moins pour une phrase. C'est cette phrase qui se trouve au tout début de l'introduction et qui dit « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. » Donc il y a cette invitation qui est faite aux philosophes, à la philosophie, de s'ouvrir à autre chose qu'à la philosophie, de s'ouvrir à ces matières étrangères que tout le monde cherche. Parce qu'effectivement, personne ne veut être un philosophe de cabinet, personne ne veut être un philosophe enfermé dans sa tour d'ivoire ou flottant
personne.
Dans les nimbes.
Vous êtes sûr, Thierry
Hoquet? En tout cas, pas décrit comme tel. Et du coup, Canguilhem, il nous invite ici, et en tout cas, il donne ce slogan ou ce défi pour les philosophes qui consiste à aller... toucher quelque chose, ne pas jouer simplement avec les mots, jouer simplement avec les idées, ne pas simplement flotter dans un éther dilué, mais vraiment, voilà, rencontrer l'être, rencontrer les choses, rencontrer donc ici les vivants. Et ça me semble tout à fait essentiel.
Mais dans l'archive qu'on a entendue de 1967, je le reprécise, Georges Canguilhem nous parle de la vie et nous dit en fait que la vie a été... presque évacué, soit avec des métaphores vulgaires. Alors j'adore quand il dit ça. Quand on dit la vie est belle, c'est un peu vulgaire. Je trouve pas ça vulgaire. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais il parle aussi de l'approche scientifique qui en fait a aboli la vie d'une certaine manière, l'a rendue presque abstraite. En quoi la vie peut intéresser un philosophe et en quoi c'est une matière étrangère? Tel qu'il le dit dans l'introduction que vous avez lue, Thierry Hoquet, parce qu'il n'y a rien de plus familier que la vie, non?
Oui, alors la vie est belle, c'est vulgaire au sens où c'est vraiment une phrase toute faite que tout le monde répète. C'est vulgaire, pas au sens de grossier, c'est vulgaire au sens de idée reçue communément partagée. Et de fait, il se trouve que moi, mon entrée dans le monde philosophique, ça a été à travers une petite anthologie qui était parue... chez Flammarion et qui s'appelait La vie, justement. Et c'était vraiment autour de ces questions que tout se posait. En fait, c'était un peu l'entrée en philosophie de ma génération, en fait, à travers par la petite porte, par ce travail d'anthologie. Et le premier volume de la collection, c'était L'âme. Et ça a été fait par mon cher collègue Élie Düring. Et en fait, l'âme, disait-il, l'âme est quelque chose. Et moi, ça m'avait frappé parce qu'à l'époque, j'étais dans une sorte de matérialisme assez bas de plafond, quoi, si je puis dire. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire, non, l'âme, c'est une fiction, en fait. Et Düring nous lançait ce défi, l'âme, c'est quelque chose. Alors, et la vie, qu'est-ce que c'est alors ? C'est ça la vraie question. Et du coup, quand on s'intéresse à ce que c'est que la vie, eh bien, il y a cette tension qui apparaît immédiatement entre le vécu et le vivant. Et le vécu, les philosophes sont assez prêts à dire que c'est quelque chose, parce que c'est la conscience.
Puis on a eu Bergson quand même.
On a eu Bergson, et à l'époque, je pense que c'était Michel Henry qui faisait cette phénoménologie de la vie, mais où la vie, ça voulait dire simplement la fulgurance d'une apparition. Alors que les vivants, le vivant, c'est systématiquement quelque chose qui est passé au second plan, qui est relégué, au sens où on utilise souvent une formule de François Jacob qui consiste à dire on n'étudie plus
qui
la vie.
Qui est François Jacob ?
Le biologiste prix Nobel, auteur de La logique du vivant et du jeu des possibles, deux ouvrages majeurs. Et François Jacob dit on n'étudie plus la vie dans les laboratoires. Donc, comme s'il avait autorisé le fait que dire la biologie, en fait, ne parle pas de la vie, elle parle d'autre chose.
Mais alors, elle parle de quoi ?
Oui, elle parle d'ADN, elle parle
d'oxydoréduction. De molécules, c'est ça, on va y revenir, de maladies aussi, en fait, mais pas de vie.
Elle parle pas de la vie, elle prend pas la vie au sens propre comme objet. Parce que, de fait, la vie, c'est un terme presque qui appartient plus à la théologie, en fait. Un terme qui désigne la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vraie vie. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie ?
Ouais.
Donc, moi, j'avais donné en ouverture à cette anthologie...
Donc, c'est une anthologie, je précise, Thierry Hoquet, que vous avez écrite. C'est pas l'anthologie que vous avez lue et qui vous a amené à la question de la vie. C'est vous qui l'avez rédigée.
Oui, on l'avait composée, en fait.
Voilà.
C'est ça.
C'est vous qui avez choisi les textes. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous avez écrit en entrée de cette anthologie ?
Non, j'avais pris un extrait d'un roman, d'une sorte de romancier médecin qui racontait que la vraie vie s'appelait le livre. Et cette vraie vie, c'était la vie d'un malade. Il disait qu'il sache avec ses tisanes, ses piqûres qui lui perceront le cuir, ses joies, ses peines, la maladie lui ouvre ce qu'il n'avait jusque-là trouvé, la vraie vie. Donc comme si finalement c'était l'épreuve de la déchéance corporelle, de la souffrance, de la douleur qui ouvrait à ce qu'est la vraie vie. Et j'avais pris ça comme énigme introductive, quoi. C'est-à-dire en quoi est-ce que la maladie nous dit quelque chose de la vie ?
Mais moi, ce qui m'intéresse, Thierry Hoquet, c'est deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on parle énormément de vivant. C'est-à-dire que c'est devenu un terme qui a été, on pourrait dire, vulgarisé, un petit peu comme quand Guillaume dit que la vie est belle, c'est une idée, une phrase vulgaire. Maintenant, on parle beaucoup de vivant. Alors, de quelle génération vous parlez quand vous dites que, à votre époque, quand vous avez commencé la philosophie, la vie, le vivant, n'était pas à la mode. Maintenant, on en parle beaucoup. Est-ce que ça veut dire la même chose? Et est-ce que quand vous êtes rentré dans la philosophie, c'est ma deuxième question, c'était cette question-là qu'on a aujourd'hui avec le vivant qui vous intéressait plutôt dans une dimension écologique?
Vous me faites dater, là. Vous m'inscrivez.
Je suis obligée quand même, c'est le souffle de la pensée. On est obligé de faire un petit point quand même.
Un petit point générationnel. Ouais. Très bien, très bien. Alors, quand je dis le vivant est disqualifié, c'est généralement, en philosophie, le discours de la biologie le vivant est disqualifié. Donc, vous me dites, aujourd'hui, le vivant est un concept...
à la mode.
À la mode et qui devient un terme clé pour l'écologie. Alors, effectivement, c'est vrai... Simplement, on pourrait dire qu'il y a un petit peu de biologie là-dedans, au sens où il y a un vague intérêt pour la crise de la biodiversité. Mais quand on vous dit les vivants se rebellent, en fait, défendre le vivant ou le vivant se défend, voilà, ce genre de formule, je pense que c'est plutôt un concept, encore une fois, romantique du vivant, en fait. C'est-à-dire, c'est pas le vivant dans ses fonctionnements matériels qui intéresse, c'est pas le mécanisme du vivant qui intéresse. C'est le vivant en tant que capacité normative, capacité de rébellion. Donc là, on est très proche de quelque chose qui est expliqué par Georges Canguilhem, en fait, qui est mis en avant par Georges Canguilhem. C'est-à-dire que être vivant, c'est être normatif. Être vivant, c'est préférer et exclure. Donc, vous avez tout à fait raison de souligner qu'aujourd'hui, le vivant devient l'objet d'un soin, l'objet d'une préoccupation, l'objet d'un intérêt, mais aussi une nouvelle manière de qualifier le sujet politique. Je suis tout à fait empathique avec ces courants. Je dirais simplement que, de mon expérience, le politique a tendance à écraser systématiquement toutes les autres dimensions de la réalité.
Donc, cette réalité biologique, par exemple.
Et en particulier, voilà, le fait que... il y a des bases matérielles très claires de l'existence vitale. Et le livre de Canguilhem dont on parle aujourd'hui, donc Le normal et le pathologique, il nous met face à cette... il nous confronte à cette réalité qui est que tout ce qu'on qualifie de spirituel, de psychologique, notre état d'esprit, notre état d'âme, etc., ben tout ça, ça a des bases physiologiques, ça a un terrain et...
on pourrait dire naturel ou naturel, ce serait déjà... trop idéologique de le dire comme ça.
Non, moi, j'endosse complètement le terme naturel, il ne me gêne pas. Hein. C'est-à-dire, effectivement, il y a des composantes matérielles, naturelles, physiologiques, qui déterminent nos humeurs. Et qui déterminent...
Ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a un argument, l'argument d'autorité, de dire c'est naturel, c'est comme ça, c'est matériel, est un argument qu'on peut combattre aujourd'hui.
Oui.
Donc, vous êtes quand même sur un terrain glissant, Thierry Hocquet.
Non, mais Canguilhem, justement, il nous aide à penser aussi ce naturel dans une dimension dynamique, une dimension historique, une dimension...
Et non pas forcément autoritaire, en fait, autoritaire, voilà. Monde figé, c'était comme ça, il faut revenir à ce que la nature nous dit. Ouais. Tout ce qu'on entend, par exemple, sur la sexualité, par exemple, ou les sexes, dire la nature, c'est ça.
Alors, je voulais dire deux choses. Là-dessus, d'abord, Canguilhem, il nous explique que la vie, c'est... Alors, il utilise un mot allemand, je peux le dire.
Oui.
Aus einander Setzung.
Ça veut dire... plus vite que ça, faut vraiment...
Ça veut dire explication. Le vivant, il s'explique en permanence avec son milieu. Il n'est pas victime d'un milieu, il est dans un débat continuel avec son milieu. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est important dans cette idée de ce rapport dynamique et inventif du vivant avec ce qui l'entoure. On n'est pas passif face à un milieu auquel on doit s'adapter. Il y a une sorte de co-création entre le vivant et le milieu dans lequel il vit. Donc ça, c'est très important. L'autre chose, puisque vous évoquez la sexualité, c'est qu'avant la phrase que j'ai citée sur les matières étrangères, il y a une phrase qui a été pour moi, dans ce livre, Le normal et le pathologique, un problème ou un obstacle, en tout cas une matière à penser, c'est cette phrase-là. Il dit « Le problème des structures et des comportements pathologiques chez l'homme est immense. Un piébo congénital, un inverti sexuel, un diabétique, un schizophrène, pose des questions innombrables, etc. » Et là, je me suis dit, mais en fait, ok, un piébo, je vois ce que c'est, un schizophrène, un diabétique, je ne suis pas médecin, mais j'ai des vagues notions de ce que ça peut être, des concepts vulgaires de ce que ça peut être. Mais pourquoi l'inverti sexuel est dans cette affaire?
Donc homosexuel.
Ce qu'on appelle aujourd'hui homosexuel ou gay, ou etc. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et ça, c'est intéressant, parce que le fait que Canguilhem y place... l'inversion sexuelle ici. Je ne dis pas qu'il affirme que c'est... Il dit, en tout cas, il le met dans une série, quoi.
Dans une série,
de pathologie.
Oui, exactement.
Donc, ça, c'est un problème pour moi. C'est-à-dire, ça a été un fer à ronger, une pierre à user, quoi.
Vous avez résolu le problème, Thierry Hocquet, ou vous travaillez encore dessus?
Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que déjà, il y a différentes manières de penser les rapports qu'on appelle homosexuels ou les rapports sexuels, la typologie. Et là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est ce qu'on pourrait appeler une catégorie nosologique, c'est-à-dire une manière de classer les pathologies. Et ici, des comportements humains peuvent aussi être classés comme pathologies. Pathologique, voilà. Il n'y a pas que des modifications, des affections, des affections physiologiques, quoi. Il y a aussi des comportements qui peuvent être jugés pathologiques. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis le fait qu'il y ait aussi la maladie mentale qui soit présente.
Ouais.
Donc en fait, on a cette idée.
Et on est en 43 quand il écrit ça.
On est en 43. Et donc ça veut dire quoi? Ce qu'il y a une historicité de ces catégories, peut-être, d'une part. De fait, l'homosexualité a été retirée de la classification des maladies, etc. Donc, ça a une histoire. L'autre chose, c'est que je pense qu'au fond, quand même, pour Canguilhem, le point de départ de cette affirmation, ou en tout cas le fondement de cette affirmation, c'est dire que les normes ne sont pas uniquement des normes sociales. Qu'il y a des normes vitales, que l'organisme prescrit des normes. Par exemple, le tube digestif, eh ben, il faut que ça entre par un côté et que ça sorte par l'autre. Voilà.
Ça, c'est une norme vitale.
C'est une norme vitale.
Qui impose une norme sociale, c'est ça?
On ne peut pas faire autrement. On mange avec la bouche. Voilà.
Voilà, ouais. Et donc, on connaît le reste, on connaît la suite.
Voilà.
Ouais.
Et donc, je me dis, les organes sexuels aussi doivent prescrire certains usages. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire quoi pour Kang Willem d'indiquer que la chose sexuelle, elle fait partie de la définition du normal? Mais ça veut dire qu'être un individu sain, pour lui, ça ne veut pas dire uniquement bien fonctionner. La vie dans le silence des organes que vous évoquiez.
Qui n'est pas une phrase de Kang Willem, d'ailleurs, qui est une phrase de Le Riche.
Voilà.
Un chirurgien.
Mais que, disons, qui est devenu un peu emblématique, en fait, de cette... parce que c'est une formule magnifique, en fait, effectivement. Eh bien, donc, vous m'avez coupé.
Non, pardon.
Indépendamment de cette... je ne sais plus ce que je voulais dire. De cette santé, il y a ce côté des normes qui ne sont pas seulement politiques, mais qui sont organiques. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a intéressé? Et après, on va écouter un premier extrait du normal et du pathologique de Kang Willem. Qu'est-ce qui vous a intéressé, Thierry Roquet, dans cette question de vie qui ne soit qui déploie des normes non pas seulement sociales mais biologiques, qui soit pas seulement la vie vécue, c'est-à-dire l'existence, ni seulement la vie organisation politique, mais la vie biologique. Vous m'avez dit juste avant l'émission que vous aviez fait un parcours S, donc scientifique. Est-ce que c'est ça, vous êtes dit, mais en fait on minore la dimension biologique des questions philosophiques qu'on se pose chaque jour? C'est qui vous a donc conduit à lire aussi Kang Willem.
Ce qui est trop facile, c'est trop facile de parler de la vie.
Oui.
En disant, les sciences de la vie, elles n'ont rien à nous dire sur la vie. C'est étonnant, en fait. C'est vrai, en fait. Je trouve qu'il y a une arrogance philosophique que je trouve insupportable dans tout ça.
Et, donc c'est vous avez voulu faire de la philosophie pour montrer que c'était arrogant et réhabiliter quelque chose qui était...
Tout à l'heure, vous citiez Bergson. Et bien, Bergson, c'est pareil. Bergson, j'adore Bergson. C'est magnifique, l'évolution créatrice. Mais en gros, ce que fait Bergson dans l'évolution créatrice, c'est qu'il fait la leçon aux biologistes. J'ai qualifié ça de uber-biologisme, en fait. Tu vois, comme il y a des uber-mâles, des mâles hyper-virils, là, Bergson, il joue à l'uber-biologiste, c'est-à-dire il va être plus biologiste que les biologistes. Il va montrer aux biologistes comment il faut faire de la biologie. Ah bon? Ben on va attendre des scientifiques qui nous apprennent à faire de la philosophie aussi, c'est ça. Donc, je trouve que, voilà, pour moi, si on parle de la vie, c'est quand même une impasse de se désintéresser complètement de ce que font, de ce que disent les sciences de la nature, parce qu'elles nous enseignent énormément. Elles nous apprennent...
Mais pourquoi cette question de la vie, ça vous a intéressé, Thierry Roquet?
Ça vous intéresse pas, la question de la vie? La vraie vie, la belle vie, la vie est belle? Non.
Ouais, mais c'est d'un point de vue existentiel.
Exactement, mais je pense...
Pas d'un point de vue vital.
Enfin, il suffit d'avoir été malade une fois dans sa vie.
Ouais.
Et que le premier qui n'a pas été malade une fois dans sa vie me jette la première pierre, eh bien, il suffit d'avoir été malade une fois dans sa vie pour comprendre la fragilité de notre existence, la fragilité de notre égoïsme, la fragilité de notre subjectivité. Je suis là, nous sommes en train de parler, nous sommes vifs, nous essayons d'être drôles, intéressants. Mais en fait, tout ça ne serait pas possible si un certain nombre de conditions matérielles n'étaient pas remplies. Donnez-moi un rhume, un simple petit rhume. Eh bien,
je vous le donne, je l'ai en ce moment, Thierry Roquet.
Et je ne serai plus capable d'entretenir cette conversation avec vous, avec le même entrain, le même appétit. Donc, qu'est-ce qui est au fondement du mystère de notre existence et de notre dynamisme vital, de notre appétit vital? Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas en notre possession, en notre maîtrise. Voilà, donc c'est ça le livre du normal et du pathologique aussi. C'est dire le fondement de la définition de ce qui est sain ou pathologique n'est pas nécessairement simplement mesurable, c'est quelque chose que nous ressentons.
Et c'est pas qu'une question aussi de normes sociales, justement. C'est-à-dire que c'est pas que ce qu'on nous prescrit ou ce qu'on pense être bon pour nous qui fait qu'on se sent bien ou pas.
C'est quelque chose que nous ressentons. Mais Kang Willem indique tout de suite, et ça c'est très intéressant et très problématique, qu'il peut y avoir une base matérielle de ça, et qu'en tout cas, ça nous intrigue, ça nous intéresse, ça nous rassure, parce que ça nous donne aussi une capacité d'action sur cette chose, de se dire qu'à l'origine de ce qui fait ce que nous sommes et de ce qui nous rend malades, etc., il y aurait une ontologie, c'est-à-dire il y aurait des phénomènes qui soient visibles au microscope, qui soient... Voilà. Donc peut-être que j'essaye de me rassurer en m'intéressant au vivant, en me disant, il y a des choses là qui sont intéressantes. Ça me permet de chasser la question de l'âme, des choses sulfureuses, mystiques, spirituelles. Je me dis, allons voir du côté des hormones, allons voir du côté des gènes, allons voir. Je ne dis pas que je veux tout naturaliser. Je dis juste faire comme si tout ça, ça n'existait pas, comme la base matérielle de notre existence. Eh bien, à un moment, je pense que ça tourne court. Je comprends bien que, et vous m'avez mis en garde contre cela, je vous remercie, mais je comprends bien qu'il y a un risque à ça, c'est de tout naturaliser. Mais je pense que entre tout naturaliser et entre faire comme s'il n'y avait pas de nature, eh bien, il y a peut-être une voie à chercher.
Je ne vous ai pas mis en regard, tiens, ok, je pense que vous le faites vous-même. On va écouter tout de suite un premier extrait du Normal et du Pathologique de Kang Yem. Je précise quand même que Kang Yem, parce qu'on ne l'a pas encore présenté, était d'abord philosophe. Il a quand même été à Normal Sup avec Sartre, Nizan, Aron. Et puis, il a été très engagé dans la résistance. Il a entrepris des études de médecine qui l'ont conduit à soutenir cette thèse en 1943 sur le normal et le pathologique, qui a seulement été publié en 1966 avec une section en plus qui s'appelle « Nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique ». Nous, on va quand même plutôt s'intéresser à la thèse de médecine, c'est-à-dire les deux premières sections, et on va écouter tout de suite un extrait de la toute première section.
On comprend que la médecine ait besoin d'une pathologie objective. Mais une recherche qui fait évanouir son objet n'est pas objective. On peut nier que la maladie soit une espèce de viol de l'organisme, la tenir pour un événement que l'organisme fait par le jeu de ses fonctions permanentes, sans nier que ce jeu soit nouveau. Un comportement de l'organisme peut être en continuité avec les comportements antérieurs, tout en étant un autre comportement. La progressivité d'un avènement n'exclut pas l'originalité d'un événement. Parce qu'un symptôme pathologique pris à part traduit l'hyperactivité d'une fonction dont le produit est strictement identique au produit de la même fonction dans les conditions dites normales. Cela ne veut pas dire que le mal organique, conçu comme une autre allure d'ensemble de la totalité fonctionnelle, et non comme une somme de symptômes, ne soit pas pour l'organisme une nouvelle façon de se comporter relativement au milieu. En fin de compte, ne conviendrait-il pas de dire que le fait pathologique n'est saisissable comme tel, c'est-à-dire comme altération de l'état normal qu'au niveau de la totalité organique, et s'agissant de l'homme au niveau de la totalité individuelle consciente où la maladie devient une espèce de mal? Être malade, c'est vraiment pour l'homme vivre d'une autre vie, même au sens biologique du mot.
Extrait donc du Normal et du Pathologique de Kang Yem. Nous sommes dans la première section, Thierry Hoquet, essai sur quelques problèmes concernant le malade et le pathologique. Et dans cette question, l'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative de l'état normal? Alors, quelques mots quand même sur la lecture de ce texte et même de ce livre. Je l'ai lu cette semaine, je n'en avais lu jusqu'ici dans ma vie que des passages. C'est une lecture à la fois, je le dis, fastidieuse.
Ne m'en remerciez pas.
Et en même temps, mais franchement, ça fait exploser la tête. C'est, enfin, vraiment, il y a quelque chose de... On découvre des choses, notamment, on y reviendra, mais sur l'anomalie, l'anormal, le pathologique. Mais déjà, dans cette première section qui peut paraître effectivement un petit peu fastidieuse, car quand Guillaume nous dit non, la maladie n'est pas qu'une question de quantité, entre eux, c'est pas un problème d'excès ou de défaut, il y a quelque chose d'autre qui se joue, ce qu'on a entendu dans ce texte. Et quand on découvre ça, ça déjà, c'est quand même une énorme claque, Thierry Hoquet.
Oui, oui, en fait, donc il ne faut pas se laisser, ce que j'entends à travers ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas se laisser arrêter par cette première section. Hein.
Oui, et même par des formules qu'on vient d'entendre, traduit l'hyperactivité d'une fonction.
Oui, oui, bon. Oui, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu lourd. Quel sens qui se dégage de ça? Oui. Bon, je pense qu'il est dans la dernière phrase qui a été lue. Hein. Être malade, c'est vraiment pour l'homme vivre d'une autre vie, même au sens biologique du mot. Donc là, à travers ça, ce qui va se jouer, c'est l'apparition du concept d'allure. Mmh. En fait, l'idée qu'il y a des allures et que la santé, c'est pas seulement la vie dans le silence des organes, c'est aussi ce que Kang Yem va appeler une capacité normative. C'est-à-dire, être vivant et être en bonne santé, c'est être capable, non pas seulement de s'adapter, mais de vivre à différents rythmes. Alors que la maladie va être une restriction de ses allures vitales. Mmh. Il cite à un moment, c'est très drôle, une maman, une, une femme au foyer, comme on disait, ou comme voilà, qui vient consulter, mm-hmm. et puis le médecin lui dit « Ah, madame, ménagez-vous », et elle lui dit « Mais comment voulez-vous que je me ménage alors que j'ai mon ménage, mon ménage à faire, etc., mon ménage dont il faut que je m'occupe ?» Et en fait, comment se ménager quand on a des activités à remplir. Et en fait, ce qu'il nous explique, c'est que la vie, s'il y a le silence des organes, c'est qu'en fait, nous sommes dans un niveau d'activité, un niveau de vie qui nous permet de faire face à quantité de situations. Alors bien sûr, chacun a une allure un peu privilégiée, un niveau d'activité auquel il se sent bien, en phase. Mais en fait, un vivant en bonne santé, il est capable de s'adapter à d'autres allures. Donc, par exemple, il donne un autre exemple, c'est celui d'une, alors pareil, une bonne qui vit dans la vallée, et puis tout à coup, ses maîtres l'emmènent en villégiature à la montagne. Et là, elle découvre qu'en fait, elle peut plus respirer, elle est mal. Donc, en fait, son allure, c'était, elle était parfaitement bien pour vivre dans la vallée, mais en altitude, tout à coup, elle se révèle malade. Donc ça, c'est ça. Elle est malade, du coup, parce que elle est pas capable de s'adapter aux deux milieux.
Mais ça, c'est intéressant, parce que est-elle malade quand elle est dans la vallée? Mais elle ne le perçoit pas parce qu'en fait elle est dans un milieu qui lui convient, ou est-elle malade uniquement dans la montagne parce que le milieu effectivement rompt cette harmonie. Vous voyez, pour qu'elle le... si elle a l'allure rétrécie à cause de la maladie, la maladie peut préexister, sauf qu'elle n'était pas conscientisée, et elle ne se révèle que dans un certain milieu.
On pourrait dire que ce que révèle ce déplacement, c'est une forme d'infirmité.
C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a pathologique, anormal, infirmité aussi.
Oui, il y a plein d'autres concepts. Il y a aussi anomalie, rareté physiologique, on va dire. Mais donc, infirmité, ici, ça veut dire, on voit bien ce que ça veut dire, c'est l'impossibilité de remplir certaines fonctions dans certaines conditions. Un autre exemple qui est souvent développé par Canguilhem, c'est celui de l'hémophilie, par exemple. L'hémophile, il fonctionne bien, simplement, dans ce dialogue permanent entre l'individu et son milieu, il y a beaucoup de petits saignements qu'il faut cicatriser.
Il dit le sang vis-à-vis presque, c'est-à-dire, sauf que le problème du sang de l'hémophile, c'est qu'en fait, il se déploie dans n'importe quel milieu, alors qu'il devrait devoir s'arrêter dans certains milieux.
Voilà, c'est ça, donc... c'est dans ce dialogue-là qu'il y a un petit problème. C'est dans ce dialogue entre l'individu et son milieu. Et ce que dit Canguilhem, c'est que quand on a été malade et qu'on ne l'est plus, on peut malgré tout se sentir toujours malade dans la mesure où on a la nostalgie de la personne qu'on a été et qu'on n'arrive plus à retrouver. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ça, parce que, c'est-à-dire, ce sentiment d'allure réduite, c'est pas juste qu'on se confronte à ce sentiment d'allure réduite. C'est que, parfois, on sent bien qu'on n'est plus capable de faire comme avant.
Mais ça, c'est assez révolutionnaire quand il le dit en 1943, Georges Canguilhem, parce qu'il me semble que c'est terriblement actuel de dire ça.
Oui, c'est ce que je veux dire, ça reste aujourd'hui...
quand on parle d'errance, par exemple, de parcours de santé, d'errance dans les diagnostics, notamment en termes de santé mentale, que quelqu'un nous dit « je me sens malade », qu'il le dit à ses proches, qu'il va de médecin en médecin, et que le médecin, en fait, n'arrive pas à le concevoir, à être d'accord, à l'accepter, à s'en apercevoir. Canguilhem, il est déjà dans cet état d'esprit, parce qu'il faut dire que dans cette première partie, il s'attaque à Auguste Comte, mais aussi à Claude Bernard, qui était un médecin. Et il dit, mais ils se sont trompés. Ils ont voulu que la maladie ne soit pas un mal localisable. Ils ont voulu réduire la maladie à une question de quantité. Il dit, c'est quand même plus que ça. Ça change toute la vie d'un malade. Il avait déjà ça en tête, Canguilhem, alors ?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'habitude de nous faire peur avec les médecins qui rendent tout le monde malade.
Il y a Montaigne, il y a Molière.
Voilà, l'exemple clé, c'est le docteur Knock. Hein. Ouais. Donc, on a cette idée, vous savez, que le docteur Knock, il est capable de rendre malade tout un canton. Et quand on lui dit, mais docteur, je n'ai rien, eh bien, le docteur vous répond, en êtes-vous sûr? Voilà, donc ce docteur qui vous rend malade en trouvant chez vous des pathologies alors que vous fonctionnez très bien et vous n'avez rien demandé. Bon, là, ce que Canguilhem nous dit, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sentent malades et dont les docteurs ne veulent pas. dont les docteurs n'ont rien à faire, et rien alors, à dire. Rentrez chez vous, vous allez très bien. Mais non, je ne me sens pas bien.
Alors, qu'est-ce qu'on fait justement dans ces cas-là? Quelle réponse apporte Kang Guillaume, Thierry Hoquet? Est-ce que c'est juste une formule théorique de Kang Guillaume de dire « Attention, en fait, il n'y a pas de maladie parce qu'il y a des médecins, mais il y a des maladies parce qu'il y a d'abord des malades. » Est-ce que ça peut changer toute une réflexion, toute une conception qu'on a de la maladie, donc une conception théorique, mais aussi quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui de l'ordre du soin? Qu'est-ce que ça change de dire ça?
Oui, je pense que ce qui est important, c'est, pour Kang Guillaume, c'est que c'est le malade qui est le cœur de la relation. C'est sa déclaration, c'est son sentiment, c'est son... Justement, c'est de ça dont il faut partir. Donc effectivement, ça inverse la relation, ça fait du malade une affaire de la maladie une affaire individuelle. Et une affaire, on pourrait dire, d'abord subjective, au sens où il y a un ressenti qui est au départ. Donc ici, Kang Guillaume a beau jeu, on peut dire, de critiquer les gens qui veulent réduire la maladie à une simple question de quantité. Mais il montre donc qu'en fait, il y a une sorte de pouvoir mystique de l'explication médicale. Et il dit même, avec beaucoup d'ironie, que le succès de la théorie de Pasteur qui identifie la maladie à toujours une cause, en fait, un virus, une bactérie, etc., eh bien que le succès de cette théorie tient précisément au fait qu'elle nous dit « Ah, voilà ce que tu as, on l'a trouvé ». Elle nous identifie un être sur lequel on va pouvoir agir et qui explique, c'est-à-dire, c'est ça l'idée que la maladie serait un viol. Ça veut dire que la maladie serait l'entrée en nous de quelque chose d'indésirable que nous voulons rejeter. Donc, cette théorie de la maladie, elle est extrêmement puissante. Et donc, une personne qui se sent malade, si on lui dit qu'elle a rien, ça suffit pas. Cette personne, je pense, elle prie désespérément pour qu'on lui dise ce qu'elle a, c'est-à-dire par quoi elle est habitée, possédée.
Et si le médecin ne trouve rien?
Ben oui, c'est,
voilà,
ça.
C'est ça.
C'est là que la relation
toute la question. Et inversement,
de l'errance médicale
voilà,
se pose.
Voilà. Et inversement, Kang Guillaume parle du cas où une personne a une maladie, mais qu'il ne soupçonne pas. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on l'entend dans le texte qu'on a lu. Il parle de la totalité individuelle consciente. Il y a l'idée de la conscience. Kang Guillaume, d'ailleurs, a une ou deux pages très belles sur la douleur. Il parle aussi de la gêne. Il parle aussi du regard de l'autre, de ce petit boiteux qui s'aperçoit que ses camarades n'osent pas courir pour pas le mettre mal à l'aise. Donc, en fait, il y a vraiment l'intervention de la conscience. Mais alors, dans le cas où on est malade, mais où on n'a pas la conscience, il y a maladie ou il n'y a pas maladie, Thierry Hoquet? Si on pose vraiment le chose...
Fichez-nous la paix, c'est ça qu'on a envie de dire. Et il donne un exemple très drôle, entre guillemets, c'est de dire que Napoléon avait un pouls de 40, des pulsations cardiaques de 40. Alors, je me suis dit, ah, c'est quoi? Moi, je ne connais pas un pouls normal. Alors, j'ai regardé, un pouls normal, aujourd'hui, pour un individu comme vous et moi, c'est autour de 60, 70, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Donc, voilà.
Mais dites pas ça, j'ai vu un cardiologue, moi, Thierry Hoquet, j'avais un pouls beaucoup plus élevé.
Parlons-en.
Beaucoup plus élevé.
D'accord, ça va jusqu'à 100, c'est ça?
Oui. Ben non, mais j'étais même à 120 et j'ai dit, oh, c'est anormal. Et il m'a dit, il n'y a pas de normal, il faudrait que je puisse vous mesurer tous les jours pour voir si là,
exactement,
c'est normal,
voilà,
ou anormal.
C'est ce que vous dit Kang Guillaume. Il vous dit,
j'ai un bon médecin. Alors.
Napoléon avait un pouls de 40. Aujourd'hui, on sait qu'un pouls de 40, ça existe chez les sportifs bien entraînés. Voilà.
Ouais.
Donc, il n'y a pas une mesure qui nous dit ça, c'est normal et ça, c'est anormal. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un qui va bien, il n'y a pas de raison de l'inquiéter. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je lis Kang Guillaume. C'est-à-dire, il y a cette idée que finalement l'individu est souverain pour dire s'il est malade même si on lui trouve rien et qu'il n'est pas malade même si on lui trouve quelque chose.
Et alors qu'est-ce que vous pensez par exemple, parce qu'au départ j'étais quand même tout à fait d'accord avec Comte et Claude Bernard qui s'appuient sur ce qui est appelé le principe de Brousset, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus Thierry Hoquet, principe selon lequel la maladie apparaît dans l'excès ou le défaut d'excitation des divers tissus au-dessus et au-dessous du degré qui constitue l'état normal. Je vais faire une prise de sang, on va me prendre le pouls chez le cardiologue. Ça, tout va être une question de mesure, de quantité, de plus ou de moins. Donc il y a quand même une certaine vérité de la maladie dans ces mesures-là. Est-ce qu'il faut complètement les oublier pour être uniquement dans le ressenti qu'on a de soi-même?
Ah non, mais ça, c'est très intéressant. En fait, je ne dis pas qu'il y a une seule conception de la maladie, en fait. Il n'y a pas une seule conception de la maladie. Et en fait, ici, c'est la question du 10 qui est important. 10, D-Y-S, le préfixe 10. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des dysfonctionnements. Il y a de l'hypo, on est au-dessous de la norme. Mm-hmm. De l'hyper, on est au-dessus de la norme. Et il y a, voilà, ça, c'est très important. Qui dirait que 10 aujourd'hui, D-Y-S, c'est le préfixe de beaucoup de choses. Hein. Il y a des dyspraxies, dysorthographies, dyslexie, etc.
Famille dysfonctionnelle.
Voilà, du 10 est partout. Mmh, donc en fait, on a, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit bien qu'il y a une sorte de norme fondamentale, de norme... de niveau auquel tout se passe bien, on juge que tout se passe bien, et ensuite... il peut y avoir des écarts qui ont des impacts. Donc, la subjectivité, elle peut trouver son appui. Mm-hmm. Simplement, ce que dit Canguilhem, c'est il faut faire attention avec ce 10, parce que 10 veut dire désordre. Et donc, désordre, ça implique l'idée qu'il y aurait un ordre immanent et naturel. Et même, on a même longtemps cru, c'est le principe de la médecine ancienne, de celle d'Hippocrate, on a même cru que le corps avait cette capacité de rétablir lui-même l'ordre. Mm-hmm. Que la nature était la vraie médecine. C'est-à-dire que le corps se rétablissait par lui-même, il suffisait de ne pas intervenir, ou il suffisait, comme on le disait souvent, et c'est ça la clé un peu du principe de Brousset, s'il y a trop, il faut enlever, et donc c'est sensu, saigné, et ce genre de choses. Mm. Donc, cette conception-là, elle est naturaliste. En gros, c'est une médecine qui considère qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste attendre. Et c'est ce qu'on vous dit quand vous avez, par exemple, une grippe ou quelque chose comme ça, on vous dit « attendez, ça va se rétablir ». Quand vous avez de la fièvre, il y a une crise, on vous aide juste à traverser la chose. Il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles, effectivement, la médecine, elle en est toujours là. C'est-à-dire, attendons que ça revienne. Si vous avez un zona, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est terrible, mais on peut juste tuer votre douleur. Voilà. Mais on ne va pas vous soigner au sens propre.
Ce qui veut dire que la pathologie...
On va vous endormir. Donc, en fait, cette conception-là de la nature, de la maladie, elle est très importante. Parce qu'au fond, pourquoi il y a de la médecine? C'est parce qu'on espère qu'on peut intervenir. Donc, même si la nature fait tout ce... qu'il y a des moyens par lesquels on peut accompagner, accélérer la guérison ou parfaire. Il y a un livre que tout le monde a relu récemment pendant la pandémie, c'est La peste de Camus. Il indique qu'il y a d'autres rapports à la maladie. Il indique il rappelle des cas dans l'Antiquité où où, je ne sais plus à quelle époque, excusez-moi, mais les pestiférés se jetaient les uns sur les autres pour hâter leur mort et accéder plus vite au paradis. Eux, ils croyaient pas à la nécessité de se soigner. Si on se soigne, c'est par une volonté prométhéenne de s'arracher à l'ordre naturel et par nos artifices de maintenir la vie, de permettre justement une ouverture de la vie qui soit supérieure. Donc en fait, le principe même de la médecine, c'est quelque chose de non fataliste. C'est quelque chose, c'est un optimisme sur la puissance humaine.
C'est-à-dire, d'ailleurs, quand Guillaume le dit, hein, c'est une technique ou art au carrefour de plusieurs sciences. C'est-à-dire que ce n'est pas une science en tant que telle, c'est une technique qui va restaurer intentionnellement, volontairement, des normes.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si les humains se permettent de se soigner, c'est parce que fondamentalement, ils ne font pas confiance à la bonté de la nature. Ils pensent que ça a plein de manières de défaillir. Donc c'est ça l'idée du 10, en fait, c'est qu'il y a des défaillances... Et qu'en fait, on peut, en intervenant, alors la saignée, les sensus, c'est une manière assez minimale d'intervention, mais de rétablir l'ordre, de rétablir l'équilibre. Cette conception de l'équilibre, elle n'est pas tout à fait proscrite ou idiote. Canguilhem commande beaucoup un livre qui s'appelle « La sagesse du corps ». Et la sagesse du corps, c'est quoi? C'est précisément tous ces mécanismes par lesquels le corps... arrive à se maintenir dans un état stable, ce qu'on appelle homéostasie, hein, capacité à rester le même, à rester dans un état constant. Donc, ben voilà, si vous avez de la fièvre, c'est parce qu'à un moment, il y a une crise qui va rétablir ensuite à votre température ordinaire. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que le corps, il est plein de mécanismes d'autorégulation. Donc ça, cette sagesse du corps, c'est frappant comme formule, parce que c'est un concept... presque politique, appliqué à à l'organisme. Eh bien, ça vient de cette idée-là, de cette idée que finalement, le corps, c'est une sorte de totalité harmonieuse qui peut être perturbée et qu'il faut rétablir dans ses équilibres.
Ce qui nous éclaire aussi sur le titre de ce livre, Thierry Hoquet, le normal pathologique. Jusque-là, je le voyais plutôt comme le normal confronté au pathologique. Or, quand Guillaume nous dit, en fait, c'est le normal avec le pathologique. Jusqu'où la pathologie ne fait pas partie aussi d'une forme de normalité? Jusqu'où il va pas y avoir une régulation? Jusqu'où, en fait, la vie elle-même n'est pas capable, en fait, de s'adapter aux pathologies de la même manière qu'il serait parfaitement anormal d'être tout le temps en bonne santé? Ça, c'est vraiment intéressant de dire que le pathologique ne s'oppose pas au normal, mais à la santé.
Oui, c'est ça. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de santé parfaite. Mm. Pas de santé parfaite, ça veut dire quelqu'un qui ne tomberait jamais malade, ça n'existe pas. Mm. Donc, en fait, en gros, si on tire les conséquences de cette phrase, ben, on va dire que tout le monde est malade, en fait.
Donc, il n'y a plus de malade, finalement.
Donc, il n'y a plus de malade. Ouais. Si tout le monde est malade, il n'y a plus de malade. Donc, l'autre chose, c'est qu'il va nous dire, en fait, ce qui est important, ce n'est pas simplement le fait de tomber malade ou ne pas tomber malade, tout le monde tombe malade, mais c'est la capacité à se rétablir. Mm. On l'a ici, ce mécanisme incroyable qui fait qu'on se rétablit. On retrouve, et c'est comme ça qu'on est plus malade, en fait. C'est quand on a retrouvé son état d'avant. Donc ça, c'est magnifique. C'est la santé, elle est définie dans la capacité à retomber sur ses pieds après une catastrophe.
Donc la santé, en fait, on la définit jamais a priori. On la définit toujours après. Il faut avoir été malade pour comprendre ce que c'est que la santé.
Ouais, il y a des pages magnifiques hein, de Quand Guilhem sur le sentiment de l'avoir échappé belle. Mm. Hein, d'avoir été comme au bord du gouffre et ce soulagement de se dire « je m'en suis sorti en fait ».
Mais Quand Guilhem parle aussi, et ça c'est très intéressant parce que assez actuel, des maladies chroniques. Mm. Par exemple du diabétique. Mm. Il s'inspire aussi de Claude Bernard qui s'est beaucoup appuyé sur le cas des diabétiques, sur qu'est-ce que c'est en fait de vivre d'avoir la santé tout en étant malade. Mmh. Ça, c'est un vrai paradoxe aussi.
Ben, en fait, c'est vraiment la question des allures qui s'impose. Ouais. Quoi. C'est-à-dire, le diabétique, il peut fonctionner, mais il doit respecter un certain nombre de consignes dans son dialogue avec l'environnement. Donc, voilà, la médecine, elle l'accompagne de manière à profiler, à façonner son milieu de manière à ce que son existence se maintienne sans heurts.
On va écouter un autre texte, Thierry Hoquet, du normal et du pathologique.
Un vivant est normal dans un milieu donné, pour autant qu'il ait la solution morphologique et fonctionnelle trouvée par la vie pour répondre à toutes les exigences du milieu. Relativement à toute autre forme dont il s'écarte, ce vivant est normal, même s'il est relativement rare, du fait qu'il est, par rapport à elle, normatif. C'est-à-dire qu'il la dévalorise avant de l'éliminer. On voit donc finalement en quoi une anomalie, et spécialement une mutation, c'est-à-dire une anomalie d'emblée héréditaire, n'est pas pathologique du fait qu'elle est anomalie. C'est-à-dire écart à partir d'un type spécifique, défini par un groupement des caractères les plus fréquents sous leur dimension moyenne. Sans quoi, il faudrait dire qu'un individu mutant, point de départ d'une espèce nouvelle, est à la fois pathologique parce qu'il s'écarte et normal parce qu'il se maintient et se reproduit. Le normal, en matière biologique, ce n'est pas tant la forme ancienne que la forme nouvelle, si elle trouve les conditions d'existence dans lesquelles elle paraîtra normative, c'est-à-dire déclassant toutes les formes passées, dépassées et peut-être bientôt trépassées. Aucun fait dit normal parce que rendu tel ne peut usurper le prestige de la norme dont il est l'expression. À partir du moment où les conditions dans lesquelles il a été référé à la norme ne sont plus données. Il n'y a pas de fait normal ou pathologique en soi. L'anomalie ou la mutation ne sont pas en elles-mêmes pathologiques. Elles expriment d'autres normes de vie possibles.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Nous sommes ici dans la deuxième partie du normal et du pathologique, partie dans laquelle Canguilhem s'interroge sur l'examen critique de quelques concepts normal, anomalie, maladie, normale et expérimentale. Thierry Hoquet, ce passage, ces passages-là, en fait, ce passage notamment, cette deuxième section est assez incroyable. Moi, j'arrive à réfléchir quand on a deux termes, normal, anormal. Mais là, on en a trois. Mmh. Anomalie, mmh. Anormale, mmh. Pathologique. Mmh. Avant qu'on commente le texte, et il va nous rester peu de temps, est-ce que vous pouvez nous faire un point quand même sur ces trois termes et nous montrer en quoi Canguilhem révolutionne la manière dont il fait circuler les significations entre ces trois termes?
En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que le terme normal, il a plusieurs significations. Voilà. Donc, on l'entend dans plusieurs sens. Il y a plein de manières, plusieurs manières d'être normal ou anormal. Alors, être anomal, c'est un terme que Canguilhem met en avant parce qu'il dit, en fait, anomalie, c'est un mot sans adjectif. Donc, être anomal, à ne pas confondre avec anormal, anomal, c'est juste être une rareté. Donc, quand on est anomal, c'est juste qu'on est rare.
Purement descriptif.
Voilà, c'est purement descriptif. Alors que anormal, ça fait référence à une norme, donc à une règle. C'est prescriptif, en fait. C'est plus descriptif, c'est prescriptif. C'est-à-dire... quand on est anormal, il ne faut pas être anormal. Mais on a le droit d'être anomal. C'est juste qu'on est rare. Voilà. Le problème, c'est que l'anomal a tendance à se sentir anormal. Pas nécessairement à l'être, mais à se sentir anormal.
On revient sur la conscience, en fait, sur le ressenti.
Donc, effectivement, l'anomal, parce qu'il est rare, il peut avoir ce sentiment. Mais en fait, ce qui travaille le texte de Canguilhem, c'est véritablement une logique emprunté à Darwin et à sa théorie de l'origine des espèces. C'est-à-dire l'idée que il y a des variations, et ces variations sont normales au sens statistique, cette fois. C'est-à-dire, en fait, ça ne pose pas de problème qu'il y ait de la variation. Il est consubstantiel à la vie qu'il y ait des variations. Mais dans ces variations-là, certaines peuvent être simplement des anomalies, certaines peuvent être des anormalies, anormalies, si vous me permettez le mot. Tout ça, c'est l'environnement qui va décider, en quelque sorte, de ce qui est bon ou pas bon. Et cette logique darwinienne, c'est que ce qui, à un moment, peut être monstrueux, peut, dans des conditions différentes, devenir la nouvelle norme. Donc, ça correspond à des théories de l'évolution qui étaient très en vogue, disons, au milieu du XXe siècle, hein. Qui disent, en fait, si vous regardez ce que c'est qu'une baleine, par exemple, moi, je trouve ça magnifique, une baleine. Hein. Mais en fait, une baleine, un phoque, etc., tous les cétacés, les mammifères marins, c'est quand même des mammifères qui ont perdu leurs jambes. Voilà. C'est des quadrupèdes qui ont perdu leurs pattes. Donc, y a pas mal d'évolutionnistes, je ne vais pas donner les noms, mais Émile Guyénaud, par exemple, etc., qui disent, l'évolution, elle a sélectionné des monstruosités. Des formes monstrueuses se sont révélées finalement harmonieuses. Il suffisait de changer le milieu.
Donc, ce qui était au départ anormal, ce qu'on entend dans le texte, même ressenti comme une anormalité.
Oui, et qui pouvait effectivement être très handicapant sur le milieu terrestre.
A instauré une nouvelle norme.
Voilà.
Ça, c'est génial.
A créé son propre milieu, a créé sa propre niche, en fait. Une niche dans laquelle la forme qui était pas adapté à la vie terrestre, se trouve s'épanouir dans ce nouveau milieu qui n'était pas pratiqué par les ancêtres de cette créature.
Ce qu'il appelle mutation dans le texte.
Voilà, donc c'est ça la question des mutations, c'est-à-dire c'est des variations qui, pour certaines, peuvent être handicapantes, pour certaines, peuvent paraître monstrueuses. Et tout ça, ça n'est pas une donnée une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se construit dans l'invention d'un milieu.
Mais ce qu'on a tendance à oublier, Thierry Hoquet, parce qu'on a souvent en tête les normes un peu à la Foucault, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre des normes sociales qu'on va intérioriser, incorporer et qui vont... On parle du biopolitique, par exemple, il y a le terme bio, il y a le terme vie. Or là, c'est tout autre chose dont on parle, c'est des normes vitales qui, en fait, vont elles-mêmes instaurer, ou en tout cas des anomalies vitales qui vont créer de nouvelles normes, d'abord vitales, puis après sociales, j'imagine.
Oui, alors après, on pourrait dire certaines de ces vies, par exemple, je sais pas, elles dépendent avec une telle précision d'un certain état du milieu que si le milieu change, tout va s'effondrer. Donc c'est là qu'il va y avoir, une sorte de sanction de l'environnement, quoi. C'est-à-dire, en fait, en fonction de la plasticité de ces espèces, en fonction de leur capacité à s'adapter à des changements de température, à des changements dans l'alimentation, dans l'approvisionnement, etc. Voilà, là, il va y avoir un ensemble de choses qui vont faire en sorte que la sélection naturelle va opérer, hein. Et donc, ici, on voit bien que cette capacité d'invention, cette plasticité... mais elle n'est pas donnée d'avance, elle n'est pas courue d'avance. Il y a un film très drôle avec Romain Duris, qui s'appelle Dans la brume, ça vous dit quelque chose? Où,
non.
En fait, tout à coup, Paris est submergé par de la brume, et en fait, il ne faut pas que je révèle la fin, mais on s'aperçoit de ça, que en fait, les personnes qui sont données gagnantes dans un environnement ne sont pas nécessairement celles qui seront gagnantes dans un environnement complètement bouleversé.
Night of total terror. Night of the living dead. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror.
Extrait de La Nuit des Morts Vivants de Romero, film dont vous parlez, Thierry Hoquet, dans votre livre Les Presque Humains. Comment on passe dans votre trajectoire, pardon, j'ai la voix coupée, moi aussi, voilà, je suis malade, de Quand Guillaume, avec les mutations, aux mutants.
Je pense qu'il y a une étape importante pour moi qui a été celle de mon travail sur les variations des organes sexuels, la définition du sexe, que tout ce dont j'ai traité dans mon livre de 2016 qui s'appelle « Des sexes innombrables », où en fait j'avais beaucoup travaillé sur les questions d'intersexuation et où la question du normal, normatif, normalisé et de l'anomalie, tout ça, sont des concepts absolument centraux et dans lesquels j'ai beaucoup à la fois discuté Quand Guillaume et aussi ces questions d'évolution.
Et en quelques secondes aujourd'hui, pourquoi on doit lire à tout prix le normal et le pathologique? Justement pour repenser ces questions de ressenti de la maladie, de normal et d'anormal.
Je pense que voilà, l'expérience de la maladie, c'est une expérience universelle. Et Quand Guillaume, il nous offre une traversée à la fois des conceptions de la maladie, des théories sur la maladie. Et il nous aide justement à penser la diversité de ces définitions de la santé et de la pathologie dans leur relation dynamique et consubstantielle l'une à l'autre. Donc, c'est véritablement une lecture essentielle, en dépit peut-être de la technicité de certains passages.
I'm not in love, so don't forget it. Just a silly face, I'm going through. I'm just because I call you up. Don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, oh no. It's because
Chanson I'm Not In Love de Didi Sharp pour introduire cette séquence de fin d'émission. Thierry Hoquet, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vraiment vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi?
J'ai beaucoup hésité parce que c'est difficile. On s'embête quand on n'aime pas quelque chose, surtout quelque chose de célèbre ou de connu et d'unanimement admiré. Donc c'est difficile d'avouer sa bêtise. Mais en fait, donc, pour moi, j'ai choisi Stendhal.
Pas que
je ne l'aime pas. Enfin, c'est juste qu'en fait, je pense. Ce que je veux souligner par là, c'est la question du bon moment. Voilà. Et j'ai lu Stendhal à un âge où j'étais sans doute pas capable de le comprendre.
À quel âge?
Moi, ouais, vers les dernières années de lycée, voilà, entre
ah oui, c'est trop tôt.
17, 18, peut-être après, jusqu'à 20 ans, j'ai essayé de lire Stendhal, et puis après, je suis passé à autre chose, et alors que j'ai donné à Balzac sa deuxième chance, à Flaubert, à Proust, et ils sont devenus des compagnons pour moi, Stendhal, j'y suis jamais revenu. Et puis, du coup, j'ai Stendhal en moi comme le souvenir d'une rencontre ratée, voilà.
Mais vous avez testé quel Stendhal? Quel scandale Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme.
Oui, j'ai lu ça, hein, mais j'ai lu ça et j'ai le.
Ah, vous avez lu en entier quand même.
Ah oui, j'ai lu en entier, mais j'ai.
Ah, sans plaisir.
J'ai l'impression d'avoir glissé à travers.
Vous êtes un très bon élève parce que vous avez quand même lu en entier.
J'aime bien quand on dit vous êtes un bon élève et en fait ça veut dire vous êtes un idiot en fait.
Non, pas du tout.
Une créature servile qui fait.
Non,
ce
mais
qu'on lui
je
dit.
Vous êtes très tolérant.
C'est-à-dire c'est le sentiment d'un mystère qu'il faut percer, mais on n'y arrive pas forcément.
Eh bien, il m'est arrivé la même chose que vous.
Ah.
C'est OK. Eh bien, figurez-vous que je ne sais pourquoi, mais effectivement, c'est une question de moment. Je suis tombée sur le bon moment pour lire La Chartreuse de Parme.
Oh.
Et en fait, ce qui m'a sauvée, je vous donne un petit conseil. Peut-être que vous me direz si ça marche pour vous. Je ne l'ai pas pris au sérieux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop sacralisé Stendhal. Mmh. Je l'ai lu en me disant vraiment, c'est sérieux, il est en train de nous dire des choses. Et je n'avais pas compris le potentiel comique de Fabrice Eldongo, l'imbécilité de ce personnage.
D'accord.
Et donc, quand je me suis dit que je lisais un livre comme on regarde une bonne comédie, ça a complètement changé le rapport
à
Stendhal. Ce qui ne marche pas pour Le Rouge et le Noir.
D'accord.
Que je n'aime pas pour le coup, mais
parce que vous n'avez pas réussi à l'ironiser.
Je n'arrive pas, non, parce que je pense qu'il a plus d'attachement. Fabrice Eldongo devient intéressant a posteriori parce qu'il y a une forme de tendresse pour quelqu'un comme un personnage comique, comme un Pierre Richard un peu.
Non, mais je pense qu'en fait, quand j'étais en Hippocagne, j'avais un professeur vraiment, mais stendhalien, intégral. Et en fait, il en parlait avec tellement d'enthousiasme qu'on espérait que ça soit contagieux, que j'espérais désespérément que quelque chose de son magnétisme allait descendre jusqu'à moi. Et en fait, ça ne s'est pas produit.
Vous me direz. Merci beaucoup Thierry Hoquet. Désolé pour ma quinte de tout. De vous, on peut lire Histoire des coloniales de la philosophie française de la Renaissance à nos jours, c'est paru aux éditions PUF. Je cite aussi Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie et les presque humains, tous les deux aux éditions du Seuil. Je signale que Le normal et le pathologique sont disponibles aux éditions PUF, que les éditions Vrin viennent de publier le tome 4 des œuvres complètes de Canguilhem.
Tome 6
tome 6, on est loin. Et qu'une journée d'études à laquelle vous participez, Thierry Hoquet, aura lieu le vendredi 13 novembre à l'ENS d'Ulm. Ouf, un grand merci à Manon Delasselle, Corinne Amar, à Riyad Kera à la réalisation et la lecture des textes, à Anthony Thomasson à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.